On va continuer l'enseignement d'hier. On avait commencé les trois racines, lama racine, hein, tu avais posé la question, et en lien avec Trikaya. Hein. Lama racine en lien avec Dharmakaya. Le Yidam racine en lien au Sambhogakaya. Et maintenant, on va faire le Dakkha, Dakini, point de suspension, c'est-à-dire tous les autres, protecteurs du Dharma, etc. Et on peut y inclure Mahakalachalupa en tant que protecteur. Mais Mahakalachalupa peut faire office de, fait, comme tous les autres divinités Yidam, hein, ils réunissent tous les objets de refuge, les trois joyaux, les trois racines, et ainsi de suite. Hein. Dans le texte de Shenrezig, hein, c'est marqué, Shenrezig, vous êtes l'union de tous les refuges. Hein. Ça veut dire qu'on fait une synthèse. Voilà. Donc, Mahakalachalupa, ce qui est intéressant aussi, c'est que Mahakalachalupa, c'est un protecteur, mais il peut faire office de lama racine. Et c'est ce qu'on va faire ici dans ce texte-là. On va faire un guru yoga, donc automatiquement un lien direct au lama racine. Il est aussi guidam, et puis il est protecteur. Donc, il emplit la fonction des trois racines. Et ensuite, on va le nommer Bouddha, bien sûr. Donc, il va intégrer aussi donc les trois joyaux. Donc on en était à cette troisième racine. Donc je rappelle que derrière racine, il faut entendre le fondement inhérent à notre être, la nature ultime de notre être, de notre personne, de notre individu, hein, et tout particulièrement donc en conformité avec la nature de l'esprit. Que
Fondement et fondement.
fondement. Et derrière ce mot racine, donc c'est en lien, tout ce qui vient, qui se manifeste, d'accord, va être utilisé pour recontacter notre racine fondamentale. Donc par exemple, si c'est un lama de la lignée qui enseigne le Vajrayana, ces mots doivent être pris comme étant des mots qui vont nous ramener à notre fondement radical, fondamental de notre esprit. Lama racine ne désigne pas une personne. Alors, on peut parler très vite, Kalo Rinpoché est mon lama racine. D'accord? Non, quand j'avais un enseignement de Kalon Boché, je faisais une différenciation et une application que tout ce qui venait de lui me devait converger pour me recontacter à ma nature. Et c'est ce qu'il nous demandait d'ailleurs, Kalon Rinpoché. Quand il donnait une initiation, il disait, voyez pas Kalon Rinpoché donner une initiation. Voyez le Yidam racine, et ainsi de suite, et vous appropriez-vous, parce qu'on vous autorise dans l'initiation, à vous approprier le Yidam racine. Hein? Wang Kur, qu'on a traduit par initiation, c'est conférer l'autorité. C'est pas quelqu'un qui est plus sublime que nous et qui nous initie comme ça, avec condescendance, vous voyez. Bienvenue au club, je t'ai initié au club. Non, c'est pas ça. Donc derrière racine, hein, vous vous souvenez cette image, on est dans l'obscurité mentale, sous terre, dans l'obscurité souterraine, hein, du subconscient, dans nos inconsciences. Et on rencontre une petite radicelle comme ça. Et on se dit, tiens, un contact. Puis on tire dessus, puis on se hisse. Et puis après, on va avoir nos racines un peu plus fortes, plus fermes, etc., plus solides. Et puis on se hisse. Et puis finalement, on sort de terre. Puis on grimpe sur la tige et on arrivera à une fleur. Vous voyez, c'est ça, l'idée de racine. Donc dans les enseignements précédents, on a expliqué la racine et en quoi c'est plus approprié, bien sûr, de associer le lama racine avec le dharmakaya, puis le yidam racine au sambhogakaya. Maintenant, on en est au dakkha, dakini, point de suspension, mais ça peut être largement suffisant. Dakkha et dakini, racine. Seul lien au nirmanakaya de mon propre corps. Alors, c'est mal exprimé, hein, vraiment. Mais il faudrait faire des phrases entières. Un peu plus longue hein, pour exprimer les choses. Dakkha, Dakini. Dans la racine Dak, il y a qui se déplace dans l'espace, qui vole si on veut. C'est-à-dire qu'il a, c'est l'aptitude d'embrasser, libérer. Alors, vous vous souvenez, les trois types de réalisation. D'abord, une libération, puis une émancipation et enfin un éveil. Donc Dak, qu'on trouve dans Daka, c'est un aspect masculin, et Dakini, un aspect féminin. Ce Dak, il faut le voir comme l'aptitude, une conscience, hein, dans son aptitude d'embrasser l'espace sans que ça fasse vertige. Vous comprenez ? Mais quand on commence à méditer profondément, il y aura ces mécanismes de vertige. Et c'est là que, si on ne comprend pas, ou plutôt si on apprend à ne pas avoir peur d'avoir peur, ces vertiges, d'accord, devant la plénitude, l'inconcevable, la clarté lumineuse évidente, et la vacuité, et d'autres choses, ça fait plusieurs vertiges. Parce qu'on aborde notre aspect mystérieux, insaisissable. Et si on apprend à ne pas avoir peur d'avoir peur, en l'occurrence grâce à une vision de Tshadopa, quand on intègre cette contemplation, eh ben, ces vertiges, ces peurs, c'est simplement un hymen. Moi, j'aime bien cet aspect de hymen qu'on va dépuceler, en quelque sorte. On va passer. Et c'est là où il va y avoir une phase d'émancipation. On se libérait déjà de nos prisons. On se libère de notre prison intérieure, qu'on s'est fait, en se complaisant, en s'apitoyant sur nos sorts, on maintient nos prisons. On est dans nos prisons et on ne s'en aperçoit pas. Et à un moment, on s'aperçoit qu'on s'emprisonne soi-même et vient le moment de libération. Après, la perspective, il faut sortir, bien sûr, et ainsi de suite. Enfin bon, c'est expliqué hein, déjà, hier. Donc dans Dak, cette aptitude à embrasser l'espace, ça renvoie à l'élément espace, bien sûr, on les a étudiés, hein, les éléments. Ça renvoie à l'aptitude d'embrasser parce qu'on n'a plus peur d'avoir peur. Vous comprenez ? Les peurs ont leur raison d'être, mais elles sont des informations d'un seuil à passer, tout simplement. Et si on est déjà bien déterminé, bien clair dans notre aspiration, eh ben on le passe. On n'a pas tergiversé, hein, voilà, devant un seuil comme ça, voilà. Ben oui, c'est ça. Je voulais en être là, et on passe. C'est ce qui fait ces phénomènes de quand on prend des réalisations de vacuité, de clarté, de compassion. Ben, on a vraiment l'impression d'être initié, d'être révélé à quelque chose. On a tous plus ou moins connu des sortes de passages où on passe, il y a un avant, un après. Et puis il y a une clarification, des certitudes. La foi, ça veut dire une certitude. Et alors je fais des jeux de mots. Quand on a la foi, on n'a plus les fois. Au sens vulgaire, les fois, c'est avoir les peurs. Hein, d'accord, en argot. Mais ce n'est pas un phénomène de croyance. Croyance, c'est un démon. Hein, d'auto-persuasion, de compensation, etc. Dak. Après, Daka, Dakini. Voilà. Masculin, féminin.
Je peux poser une question.
Oui.
À propos de la peur, ça voudrait dire que si on n'a pas de peur, on n'est pas arrivé au seuil de quelque chose.
Ou alors, on a eu des acquis.
Oui, on s'en rend
voilà.
compte.
Voilà. Mais quand on parle de peur, ce n'est pas des frayeurs, ce n'est pas des phobies, ce n'est pas des tocs. Hein. C'est simplement un trouble subconscient, il ne s'annonce pas comme ça. Un trouble subconscient où on va faire un déni, enfin, mettre de côté. C'est là où se fait l'inadvertance de l'ignorance. Dans le Mahamudra, hein, l'ignorance coémerge à l'éveil. Hein. Mais à chaque moment de conscience, il y a une inadvertance, soit parce que on ne peut pas l'envisager, c'est inimaginable, mais c'est simplement une peur. On met du côté. Après, il y a les autres peurs d'ignorance plus ou moins délibérée, non pas conscientisée. C'est une délibération pour se replacer dans le fait d'ignorer notre ignorance. Des ignorances délibérées qui se fait par le voile de la discrimination, la soif et des auto-illusions, quoi. Alors, ne plus avoir peur, ben, il y a différentes... Du fait qu'on s'est éveillé, où on a plusieurs... des acquis de certains éveils, donc on n'a plus peur, Ça veut dire qu'on ne fait plus de déni, on ne met pas une chausse trappe, vous voyez, dans les oubliettes. Les psychanalystes diraient dans le refoulé. Hein?
C'est inconscient parfois.
Ce qui est refoulé, de fait de l'inconscient. C'est le fonctionnement de refoulé qui fait qu'il y a un inconscient. Hein, l'inconscient, ce n'est pas une case vide où on met des choses. C'est des fonctionnements où on met les choses dans l'obscurité. Et c'est ça l'intérêt de l'approche avec Mahakala Chadrupa. On va entrer dans les zones d'obscurité. Mais comme je vous ai dit hier, l'obscurité numineuse. Un nom que Jung disait pour aussi, définir le Christ. Mais le Bouddha, la bouddhéité. On passe dans une obscurité numineuse. Numineuse, c'est qui fait preuve qu'il n'y a plus d'inconscient. C'est le passage où on admet le grand mystère. De l'invisibilité, de l'indicibilité, de l'inconcevabilité, de l'inconcluabilité. Il n'y a plus de donc à reconstruire. Oui, mais donc alors, vous voyez ?
C'est oui.
C'est oui. Et encore. C'est pas un oui qui s'oppose à un non. Voilà. C'est un toujours, bien sûr, là, je chipote, mais de façon rhétorique, il faut se méfier. C'est un oui dans le sens qu'on retrouve dans jouir. D'accord ? On enlève le JR. C'est ce oui d'en jouir, mais jouir, ça veut dire faire bon usage. C'est-à-dire faire bon usage d'une attitude, des attitudes de notre conscience. Eh bien, il y a une attitude de notre conscience qui est capable d'embrasser le grand mystère. Dakai Dakini, c'est un peu l'aspect adolescent. On dit souvent 16 ans. Jouvenceau, juvencelle, on dirait dans le monde alchimique. Hein. Le jouvenceau et le juvencelle qui s'unissent et ça crée la fontaine de jouvence. C'est très parabolique, mais voilà. Parce que si on était plus explicite, ça ferait du porno, si j'ose dire. Hein, d'accord. Chakra Sambhara, c'est ça. Hein. C'est un jouvenceau et juvencelle en union et on est en union comme deux grands adolescents. Une sorte de puérilité. Daka Dakini, donc c'est la même chose que les cinq Dhyani Bouddha, Yabhyum. Mais quand on parle de Dhyani Bouddha, ben c'est les adultes intronisés sur leur trône, les rois et les reines. Et Daka Dakini, c'est les mêmes, mais à l'âge où ils étaient princes et princesses. Ils n'ont pas les problèmes de gérer un pouvoir, l'autorité, etc. Donc c'est beaucoup plus volage. Donc on le présente de façon juvénile. Jouvenceau, jouvencelle, Manjusri, on l'appelle le juvénile aussi. Cet aspect de limite entre l'adolescence et l'adulte. Mais une adolescence où on ne passe pas encore vers les compromis de l'adulte. Donc on a une part de subversion, si j'ose dire, au bon sens du terme, mais sans l'ingratitude de l'adolescent, en quelque sorte. C'est ça la beauté du Daka Dakini. D'accord. On a ça en nous, hein, des fois, quand on touche à des moments de puérilité, on n'a pas d'âge, quoi. Hein. Quand on est amoureux, tout excité comme ça, c'est Daka Dakini. Reprendre cette idée du Dak, donc, si vous allez sur le site, hein, je fais des petits rappels historiques avec Lilith, qui est dans le monde sumérien, babylonien, je ne sais pas quoi. Dans Lilith, il y a l'idée de voler dans l'espace. Et c'est très intéressant, parce que son domaine, son habitacle, c'était à la couronne d'un arbre. C'est très intéressant. Quand on a une vision de Dakini, c'est fabuleux. À la couronne d'un arbre. Sukhasiddhi, Niguma, c'est Dakini. Eh ben, elles étaient sur un siège à la couronne d'un arbre. Et Lilith, c'était ça aussi. Après, on l'a diabolisé. Mais c'est pour montrer que c'est archétypal. Cet aspect de déplacement spatial. Dakini, c'est féminin. C'est pour ça que j'aime pas la connotation sexuée féminin-masculin. Mais par féminin, il faut entendre la capacité matricielle d'être fertilisée. Et par Daka, l'aspect masculin, eh ben, le fertilisant. On peut prendre aussi des connotations dialectiques pénétrant, pénétré. Si on réfléchit, toute la manifestation, c'est du pénétrant pénétré, du contenant contenu. Mais à un moment, le contenu devient contenant, le contenant contenu, on est tous le contenu de quelqu'un, le contenant de quelqu'un, vous voyez, hein, dans la manifestation. C'est ça la dynamique d'Aka Dakini. Si par exemple, on se géolocalise là, maintenant, actuellement, on se dit, je suis dans cette pièce. Eh bien, on a fait un contenant contenu. On s'appréhende en tant que contenu, c'est ça, dans un contenant. D'accord ? C'est un mécanisme dialectique mental qui s'opère de façon totalement inconsciente. On n'a pas besoin de conscientiser ça. Hein. Mais c'est comme ça. D'accord ? Mais par contre, dès lors qu'on va s'appréhender, on va appréhender notre corps et on va parler de l'estomac de mon corps, eh bien, l'estomac va faire base de contenu, le corps contenant, et le sentiment du moi, hein, contenu dans ce corps. D'accord ? Et ce corps va faire office de contenant. Et mon estomac va faire en sorte qu'on a l'impression que le moi est dans le corps. Et ainsi de suite. Vous voyez ? Ça va ? Peut-être complexe. Hein ? Mais c'est intéressant de méditer ça, voir toute la manifestation, c'est que des passages dynamiques de contenant, contenu, de pénétrant, pénétré. Hein ? Un psychanalyste dirait tout est sexe, peut-être. Hein ? D'accord ?
Et puis ça dépend toujours de l'endroit où on se place.
Voilà, c'est une dialectique dynamique, hein, une synergie, etc. Hein ? De référentiel. Alors bien sûr, le référentiel, cette dynamique chez un être né du désir qu'on appelle un être humain, bah, c'est l'aspect coïtal qui est la forme la plus probante, hein, de cette dynamique pénétrant-pénétrée. Et on l'a dans ce mécanisme de Dakini. Dakini, donc c'est l'aspect féminin, hein, qui a l'aptitude d'embrasser l'espace. Mais si cet aspect embrassé, donc contenant, hein, englobant, matriciel et englobant, si ça reste seul, ça part en couille. Si j'ose dire. D'accord ? Alors, c'est. Si je reprends des données psychanalytiques, c'est l'hystérie, quoi. L'hystérie d'une femme ou d'un homme. Hein. L'hystérie n'est pas le propre des femmes, hein, comme disait qui, Charcot. Hein. Non, c'est. L'hystérie. On a des parts d'hystérie, de fébrilité, hein, des hommes, hein, d'accord ? Et donc, il faut un deuxième élément, le Daka. Le Daka, c'est l'aspect masculin, mais j'y mets beaucoup de pincettes. Hein, d'accord ? Mais l'aspect pénétrant, ça veut dire viril. D'accord ? Que une femme, hein, dispose aussi, bien sûr. Hein. Cet aspect viril, c'est la capacité de ce qu'on a dit à travers le Damaru, Wang Du, de rassembler. Comme on rassemble ses brebis, d'accord ? Ça va ? Wang Du, cette force de rassembler ses idées. D'accord. On s'est un peu lâché, on était tout foufou, hein, fofolle, voilà, etc. Hop, on rassemble. D'accord ? Ces deux-là doivent participer, hein, de tout individu, qu'il soit un homme ou une femme. Et Dakini, vous vous souvenez, bien sûr, c'est les cinq éléments. C'est une façon, comment vous dire, poétique, hein, de personnifier les cinq éléments. Et les cinq Daka, c'est les cinq agrégats, comme pour les Dhyani Bouddha, vous vous souvenez. Hein. C'est reprendre pouvoir sur nos mécanismes cognitifs, c'est ça le Daka. Donc c'est pour ça que quand on prend le Damaru, on devient le Daka qui prend pouvoir de ses processus cognitifs, ne se laisse pas berner dans la saisie de ses agrégats, les prenant pour réels, substantiels, hein, on ne les sclérose pas, d'accord, donc on est Dak quand même, hein, on laisse tout un espace, un espace d'intelligence de ces cinq agrégats, d'accord. Mais par contre, voilà, on passe maître en quelque sorte de ces cinq processus cognitifs, et ce qui fait faire que les cinq éléments ne partent pas dans un chaos. Ça parle un peu? C'est de l'imagerie, hein, d'accord. Il faut s'approprier toute cette imagerie, hein, pour habiter, que notre contemplation soit habitée de choses qui vont déclencher, ou plutôt nous faire révéler nos fonctionnements. Hein.
C'est les deux qui sont un processus cognitif pour nous, les cinq agrégats, les cinq éléments, les deux ensemble.
Le processus cognitif, c'est les agrégats. Les agrégats, c'est simplement pour définir qu'ils sont, ne sont pas une entité, hein, ils sont agrégés, composés. D'accord ? Une composition cohérente, bien sûr, puisque les cinq agrégats, c'est le karma. Hein, d'accord ? Donc il y a une cohérence karmique. Hein, karma veut dire une cohérence conséquentielle. Si tu établis une cause, tu auras un effet. Donc si la cause est vertueuse, c'est-à-dire propice à l'éveil, l'effet est propice à l'éveil. Ou et l'effet est l'éveil. Hein, ou un éveil parmi d'autres.
Hein. C'est le karma.
Oui. Si tu veux résumer, c'est quoi un karma? Ben, c'est les cinq agrégats. C'est-à-dire une cohérence, hein, cognitive. On peut dire c'est ce qui fait articulation d'un passage entre l'agrégat sensation et l'agrégat perception. Il y a un lien de cause et effet, une cohérence. Nous, en français, on a un terme parfait pour dire ça, on dit psychologique. C'est une logique, un logos, d'accord. Le karma, c'est le verbe aussi, on pourrait dire, le logos. D'accord. Il y a une cohérence, et en plus, cette cohérence veut dire qu'il n'y a pas de hasard. Mais il n'y a pas de fatalité. D'accord ? Cette cohérence est conséquentielle. D'accord ? Tu peux rallumer l'autre pétrole si tu veux. Il est éteint. Donc le karma, c'est simplement un terme pour désigner qu'il y a une cohérence conséquentielle entre les cinq agrégats. Voilà. Ça s'articule. C'est une articulation, d'accord, entre ces cinq processus. Alors, une articulation qui vient d'un passif, hein, qui, selon les stimulations, passe en patent, de latent à patent. Le patent, comment il est regéré par le processus cognitif pour impacter un devenir. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, ce mécanisme du karma, hein, passe de latent à patent, puis latent à patent, ainsi de suite. C'est un processus. Si on a une saisie sur les cinq agrégats, et qu'on y met des illusions, leur prêter une réalité là où il n'y en a pas, leur prêter une substantialité, hein, et une entité, etc., etc., et bien ce karma va être souillé. D'accord ? Et si on n'y met pas de saisie, pas de soif, etc., ce karma est dessouillé. C'est-à-dire, c'est le karma d'un mental désillusionné ou éveillé, si vous voulez. Ça va ? Donc les Tibétains, en sanskrit, il n'y a qu'un seul mot, hein, pour dire karma, c'est karma. D'accord ? Après, soit il est souillé, soit il n'est pas souillé. C'est-à-dire, c'est comme un processus informatique, soit il y a un virus ou pas. D'accord? Le processus informatique reste une cohérence conséquentielle. D'accord? Tu cliques deux fois sur un document, le processeur va venir, tac, il va t'ouvrir une application. Mais si tu as un virus, ben il va t'ouvrir l'application. Il continue d'être karma. Un processeur cohérent et conséquent. D'accord? Mais n'empêche, bien sûr, ce karma va ouvrir le logiciel et va aussi permettre au virus de pénétrer ce logiciel. Mais ce n'est pas la faute du karma. D'accord? C'est la faute de celui qui a laissé un virus contaminer son logiciel. D'accord? Souvent, aujourd'hui, encore maintenant, le mot karma est négatif. Il n'est ni négatif ni positif. C'est un processus cohérent et conséquent. Et le mot karma, dans la bouche d'un Bouddha, et dans la bouche normalement d'un bouddhiste bien constitué qui a bien étudié, karma, c'est synonyme de libre arbitre. C'est-à-dire que tout est de notre recours. D'accord? Mais tant qu'on est dans l'ignorance, ben, on n'est pas libre. On ne sait pas. Libéré d'une prison, d'accord ? Et l'arbitrage, on ne sait pas de quel arbitrage il s'agit, d'accord ? L'arbitrage, une fois qu'on s'est libéré, l'arbitrage, c'est vertueux ou non vertueux ? C'est-à-dire propice à l'éveil ou propice à l'obscurité ? C'est-à-dire non vertueux, c'est tout. C'est pas un arbitrage moral, hein, attention. Est-ce que c'est efficace pour m'éveiller ou pas ? Alors souvent, il y a des êtres qui ne sont pas libres d'abord. C'est-à-dire qu'ils ne disposent pas de leur propre volonté. Ils ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. D'accord ? Ils sont dans les impulsions, voilà, des pantins, hein, d'accord ? D'impulsions, d'émotionnel, hein, etc. Ils sont envahis de démons, peut-être, comme on dit. Ils sont dépossédés d'eux-mêmes. D'accord ? C'est le pire des cas, bien sûr. On a tous une part de libre arbitre. Bien sûr, heureusement, d'un regard sur soi, d'un jugement de soi, d'analyse de nos actes, et ainsi de suite. Mais, vous voyez, dans le libre arbitre, il y a déjà cette liberté, accéder à cette liberté. Et puis après, choisir l'arbitrage. L'arbitrage, c'est renoncer à l'illusion, aspirer à l'éveil. Dans cet arbitrage, voilà. Tout ce qui n'est pas vertueux à l'éveil, je m'en détourne, ce qu'on appelle renoncement, si j'ose dire. Et tout ce qui est vertueux à l'éveil, je me tourne vers. C'est-à-dire, ils vont faire objet de mon aspiration, ils vont nourrir mon aspiration. D'accord ? Vous voyez cette ligne hein, dont on avait parlé. Et d'où le vrai sens du mot Sangha, Gendun, vous vous souvenez ? Un membre de la Sangha, c'est quelqu'un qui aspire à la vertu. Si cette personne est au top de ce qui doit être vertueux à l'éveil, d'accord ? Et pas vertueux. D'accord ? Et ça n'a rien à voir avec un modèle exemplaire de moralité. D'accord ? C'est pas le problème. Moi, je ne m'estime pas être un modèle, hein, etc. D'accord ? J'essaye tant bien que mal, bien sûr, comme tout individu. Hein, on a une analyse morale, bien sûr. Hein, on veut tous dormir sur ses deux oreilles. Quoi, hein. Mais au niveau de ce qu'on demande à un membre de la Sangha, hein, au moins. S'il doit être un membre de la Sangha parmi les troisièmes joyaux, quoi, hein, qu'on disait, d'accord ? Un compagnon de route, voilà, etc. Il faut qu'on sache, il sache ce qui est vertueux à l'éveil et ce qui n'est pas vertueux à l'éveil. D'accord ? Qu'est-ce qui est propice ? Vertueux, c'est viril. Hein. Donc on renvoie à Dhaka. Parce qu'on peut avoir cet aspect très dakini, de l'éveil. Oh oui, moi c'est merveilleux l'éveil. Alors c'est vrai que ça, on s'émerveille, hein, mais ça fait bigot, ça fait, vous voyez, ça suffit pas, ça manque de Dhaka, quoi, d'accord, hein, d'accord. Surtout quand on est au début, on rencontre le Dharma, alors d'autres rencontrent le christianisme, voilà, hein, d'autres rencontrent l'art, la politique, je sais pas, voilà. Il y a toujours cet aspect de, hein, d'amour, quoi. On rentre en amour, ah, ça y est. Hein, un amour pour le bouddhiste, un amour pour son lama, un amour machin, voilà. Et là, c'est très dakini, d'accord. Mais il faut le dhaka. Pardon. Alors les dakini, si justement il n'y a pas le daka, hein, les dakini sont nommés ogresses, mangeuses d'hommes, hein, comme les sirènes pour les marins. D'accord. Et le daka, c'est Ulysse qui se ficelle contre le mât. Le mât, c'est le pénis. C'est des images, hein, d'accord. Le pénis, c'est le verbe en psychanalyse, d'accord. L'action, l'acte. D'accord. L'ouverture, l'acte. L'ouverture, l'acte. Oui. Et ça doit être une synergie.
En même temps, on peut dire intensité.
Alors, ça donne de l'intensité, ça donne de la détermination. Hein, voilà. C'est de l'ordre de la volonté. Mais une volonté qui ne veut pas contrôler, scléroser l'espace. La volonté qui est en toute ouverture, d'accord, et non pas la volonté pour s'éviter d'avoir peur, vous voyez. On peut l'appeler maîtrise, là, ici. Donc, karma, c'est synonyme de libre arbitre. D'accord. C'est une bonne nouvelle. Dans la bouche de Sakyamuni, c'est une bonne nouvelle, surtout à son époque. Hein, où, comme aujourd'hui encore, il y a, hein, le karma, c'est juste pour dire que si tu es Brahma, c'est ton karma antérieur, etc. Hein, et puis on fait des castes, hein, des couches.
On confond souvent karma et destin.
Voilà, c'est confondu, karma et destin, rétribution d'événements. Si t'es violé, c'est ton karma. Si t'as un cancer, c'est ton karma. Si t'as un accident de la route, c'est ton karma. Si t'es heureux, c'est ton karma. Si t'es riche, c'est un bon karma. Ça ne veut rien dire. Si t'es pauvre, c'est un mauvais karma. Vous voyez, etc. D'accord. Et pour certains, par exemple, quelqu'un me disait, mais les gens qui sont en Afrique, c'est leur karma. Ah oui, c'est clair, le karma a créé un ghetto qu'on appelle l'Afrique. C'est n'importe quoi, vous voyez. Moi, j'ai vu des Mauritaniens, ils étaient très contents de vivre dans le désert. Enfin, Mauritaniens, chameliers. Hein. Les morts, c'est l'élite, hein, de la Mauritanie. Mais un chamelier, il me dit, mais je suis content, moi, dans ma tente. Il loue deux chameaux, on faisait des marées, il est content, il vit très bien. Il dit, si t'aimes le désert, je te fais visiter le désert. Et je lui disais, tu nous prends pour des snobs et tout. Non, on peut aimer le désert, tu vois. Et il a un bon karma. Dire sa perception est pure, il est heureux. Vous voyez. Donc le karma ne va pas nous amener à renaître dans un lieu sur Terre, quoi. Hein, un lieu pestiféré, comme ça, l'Afrique serait là, t'as un mauvais karma, t'as un bon karma, tu deviens américain, je sais pas. Il y a des personnes qui voient ça aussi. Le mauvais karma de renaître femme, vous voyez, et ainsi de suite.
Est-ce que le karma, c'est pas... Moi, je m'imagine un peu ça. C'est, je dirais, presque comme une boîte, on a plein de trucs dedans, et après, c'est à nous de faire avec ces trucs quelque chose. Tu vois,
alors, la boîte avec plein de trucs dedans qui va nous permettre de faire les choses, c'est les cinq agrégats.
Ou pas, d'ailleurs.
Ou pas, c'est les cinq agrégats et les cinq éléments. D'accord. Hein?
C'est donc le
cas. Non. Moi, je verrais cette boîte à disposition. On dispose de cinq processus cognitifs et de manifestation des cinq éléments. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. D'accord. Et la façon de percevoir cette manifestation, les aspirations que ça peut engendrer, etc., c'est le karma.
D'accord.
Et comment tu vas faire usage de ta sensation? Et qu'est-ce que ça va procéder, produire, d'accord? C'est notre karma. Nos conditionnements intérieurs vont nous faire en sorte c'est déjà prémâché des fois, d'accord?
C'est les choix que j'en fais.
Voilà, les choix que tu en fais, hein, c'est ton libre arbitre, donc c'est ton karma.
Alors cette boîte, ça serait un genre de pré-karma.
T'as une boîte, tu ouvres, d'accord? Ça
c'est
va?
Exactement comme à la cuisine.
tu ouvres, tu as des outils, une boîte à outils.
Ouais.
Une boîte à outils, c'est les 5 agrégats.
Oui.
D'accord. Hein, pour modeler les manifestations, tu vois, pour bricoler avec la manifestation.
Oui.
D'accord. Maintenant, la capacité d'usage plus ou moins habile,
oui,
c'est lié au karma,
voilà,
qui fait des acquis,
d'accord,
de l'inné, et ainsi de suite. D'accord. L'acquis deviendra inné dans une vie future,
oui,
et ainsi de suite. Tu as l'agrégat perception, d'accord. Et le karma, c'est la façon de percevoir. Tu as une faculté cognitive, voilà, une aptitude cognitive qu'on appelle la perception, l'entendement. Hein, et si tu t'en sers pour raisonner, eh ben, tu fais. C'est ton karma qui t'a permis d'avoir cette possibilité de raisonner avec l'agrégat de perception. Si tu le saisis, tu prends pour content la chose perçue et tu ne raisonnes pas, tu discrimines. Dakka Dakini. Alors l'image souvent, ben, le Dakka prend le Damaru ou Angdu, tac, on s'axe. Pendant ce temps-là, ben, on peut récapituler ce qui vient d'être dit, l'attitude qu'il faut avoir. On fait une offrande, on fait la musique, on fait une visualisation, une prière, hop, musique, d'accord, etc. La cloche, vous vous souvenez, clarté, pétillance. Là, c'est Dakini, la cloche. Hein, c'est... Derrière, bien sûr, on peut y mettre toutes les autres, hein, classiques, traditionnels, les Dharmapala, hein, et d'autres, et je ne sais plus exactement les noms. Moi, je me contente de Dakka Dakini parce que ça renvoie au niveau yoga les souffles et leur trajet. Tsa Lung. C'est un terme en yoga. Alors, des fois, on dit Tsa Lung Tiglé. Lung, c'est souffle, l'âme, nos mécanismes d'âme, nos humeurs d'âme. Tsa, qui est traduit par canot, c'est des trajets. Parce que canot, ça fait un peu plomberie. Des tuyaux dans lesquels passent des souffles. Non, c'est le trajet qu'on donnera à nos humeurs d'âme. Et si on a une maîtrise, on donnera le trajet vertueux de ces humeurs d'âme. Et même si cette humeur d'âme, c'est un souffle qu'on appelle tristesse, eh ben, le Dakka va faire usage de cette tristesse, va lui donner signifiance, vous vous souvenez, hein, Dakka c'est signifiance, va donner signifiance de cette tristesse sans être se laisser ébranler par la tristesse ou s'apitoyer dans la tristesse et finalement finir par même prétexter la tristesse. Tu vois, la vie est bien triste, tu vois, j'ai bien raison d'être triste puisque la vie est triste. Et puis après on va la Dakini seule comme ça sans le Dakka va nous amener à déprimé. On va faire un karma de dépressif. Schéma après schéma, vie après vie, et puis il peut y avoir des êtres qui naissent vraiment dépressifs à la naissance. Il y a un saut de la dépression. Bien sûr, il n'y a rien de fatal, heureusement. Mais c'est plus difficile pour ces individus. C'est un exemple, hein, c'est un scénario possible. Donc, Dakini, c'est les souffles. Dakka, c'est la signifiance qu'il nous est possible de donner à ces souffles. Cette signifiance s'appelle tsawa, trajet. Les souffles, alors c'est Naropa, je crois, il disait, les souffles, c'est comme la circulation dans une ville. Vous voyez ? Et les trajets, c'est la route. D'accord ? Et les tiglis, ben, c'est les charrettes qui passent sur cette route, vous voyez. Aujourd'hui, on va dire voiture, bien sûr. D'accord. La voiture, c'est le tiglé. D'accord. C'est un peu comme le proton dans la lumière. D'accord. Ce tiglé, il est chargé de messages. Alors, un très bon exemple que j'utilise maintenant, moderne, moi, j'aime bien prendre des exemples. moderne. Les souffles, c'est la lumière qui passe dans les fibres optiques. D'accord ? Cette lumière transporte des tiglés, des photons, qui donnent une cohérence, hein, de l'émission qui va passer dans les fibres optiques. Je parle d'exemple de télévision, hein, télévision numérique. Et ils suivent un trajet cohérent, d'accord ? Et de la caméra jusqu'au récepteur, l'information va venir, va passer. Si, bien sûr, les fibres optiques ne sont pas coincées, tordues. Et c'est ça l'aspect du Dakar, c'est que nos trajets doivent être clairs. Alors on dit droit. Alors on s'amuse à visualiser des canaux droits. Il n'y a pas de canaux, bien sûr, dans le corps. Mais cette attitude de droiture, hein, c'est Ulysse sur le Somma, sa détermination. Daka, donc, c'est les trajets au niveau yoga. Et c'est la force de notre méditation, de clarté dans notre contemplation, qui fait le trajet à nos souffles. Oui. Donc, ces souffles ne sont pas dispersés dans l'espace, ils vont bien sûr être libres de déplacer dans l'espace, mais avec un programme, avec un point de départ, savoir se positionner dans est-ce que je suis en prison, est-ce que je suis au milieu du chemin, etc. Je me positionne et un cap. Et l'ensemble d'Aka Dakini va bien sûr ajuster en fonction du vent. Mais il y a le cap qui est clair. On a pointé sur la carte, c'est un cap qu'on a.
Objectif,
cap.
Les informations, c'est les tiglés, c'est ça que tu disais.
Oui, c'est chargé, voilà, c'est les tiglés.
Et il y a le souffle, le Dakar et Dakini. Et donc le tiglé, c'est quoi? Les Dakar et Dakini souffle, le trajet.
C'est quand il y a une coïncidence, Dakar et Dakini. C'est un moment, tac, l'aspect clair de la perception et du message, voilà.
Une coïncidence.
Alors, on représente sous l'aspect ponctuel, hein, une petite perle, d'accord ?
C'est un contact, la coïncidence ? C'est un contact, souffle d'un trajet ?
Une conjonction, un yog. Yog-a. Ce n'est pas des petites perles qu'on a dans le corps. C'est comme en géométrie, quoi. C'est un point. Mais en géométrie, on affirme le point n'existe pas, donc on va simuler le point en faisant un X. Le tigré, c'est Eureka.
Est-ce que dans cette conjonction, elle crée l'information, elle crée le tigré ? C'est ça qui crée le tigré ?
C'est
le tigré.
Oui, si tu dis ça crée le tigré, il y a quelque chose comme étant le tigré. Donc, ce qu'on entend par tigré, c'est une conjonction d'une une synchronicité yog qui aboutit à A. C'est comme un chercheur, quoi. Voilà. À un moment, il y a un eureka. Et bien, si on fait samatha vipassana, il y aura une conjonction, il y aura, hop, mahamudra. C'est l'aboutissement. Le numen, vous vous souvenez ? Le siddhi. C'est un tigré. D'accord ? Alors, bien sûr, quand on fait les yogas, on les visualise, et on fait prémâcher. D'accord ? Hein ? Hier, la méditation que je vous ai proposée jusqu'au cœur, c'est pour aller au tiglé, au fond du cœur. Et les Nyingmapas, ils disent le tiglé indestructible, le manjusri indestructible. Vous voyez, la nature manjusri, pour certains, le gourou Rinpoche, on s'en fout, quoi, le Christ, voilà, le nom qu'on lui prête. C'est le Eureka. Dans Bouddha, hein, vous vous souvenez, Bouddha. Le A ne se prononce pas, c'est le Eureka. J'aime bien le mot Eureka, c'est l'apogée. Le A de apogée. Yoga. On ne dit pas yoga. Yoga. Vous voyez ? C'est le tigré. C'est une apothéose. Le siddhi, le numen. Vous vous souvenez, hein, j'ai utilisé ce mot. Hein, numineux. L'obscurité numineuse.
C'est à partir de là où on peut avoir des clartés dans l'esprit. Et...
Alors ça peut. Voilà. Après, ça peut avoir ces phénomènes de clarté à l'esprit. Un moment de... Mais c'est ça.
Voilà.
Voilà. D'accord ? Voilà. Alors au niveau après, l'expérience qui vient à l'esprit, oui, ça donne l'idée d'un avant-après, avec certitude. Après, on peut toujours remettre en doute cette certitude pour avancer encore plus, éventuellement. Voilà.
Et puis se dire, est-ce que je ne suis pas en train de faire un plan ?
Voilà, on peut, voilà. Mais à un moment, là, on fait usage du doute cartésien en tant que pour la déclencher la réflexion et ne pas se laisser emporter par la croyance, par les illusions, etc. Mais à un moment, le doute peut devenir un obstacle. Parce que il peut précéder cet apogée. Attention. Ça va ? Et donc, quand on fait le Mahamudra, par exemple, on sent quelque chose comme... Au début, on ne sait pas de quoi ça retourne. Et là, il faut... N'aie pas de doute, c'est la nature de l'esprit. Il y a un fameux noctreux, l'introduction au Mahamudra du 16e Karmapa. Je l'introduis souvent aux gens qui font ça à Jama Mahamudra. En ce moment d'évidence de la conscience, quand on est à même la conscience, là, il ne faut pas y mettre de doute. Alors on se dit, je mets un doute par souci d'honnêteté intellectuelle. C'est trop... Non. Fais-le après, si tu veux. Et tu verras après, il y a certitude, c'est tout. Comme Sakyamuni, hein, il prend la terre à témoin, je suis éveillé. Mais il n'arrive pas, il dit je suis éveillé. Je dis souvent, hein, c'est pas un orgueil. Un éveillé ne va pas dire, oh non, je ne veux pas dire que je suis éveillé, je suis modeste. Mais si, on crie sur les toits. Moi, je ferai le premier. Alors, j'ose parler de mes expériences, il n'y a pas de problème, mes petits éveils, quoi. Hein. Mais parce que c'est pour dire, même le Shirab, il y arrive. Le plus nul des nuls, le dernier de la classe, il y arrive. Tu vois hein.
Et pourtant, par exemple, il y a plein de Rinpoche qui disent qu'ils ne sont pas éveillés.
Ils sont honnêtes, oui.
Ils ne sont pas éveillés.
Mais si, mais bien sûr. Le Dalai n'est pas éveillé.
Et il pourrait y avoir des gens comme nous qui serions éveillés et pas le Dalai.
Ah, vous le sauriez.
Oui, on le saurait, c'est oui. Ça.
Si vous êtes éveillé, vous le savez. Mais c'est pas parce qu'on a un CV, etc., l'histoire nous a amené à être le Dalai qu'on est éveillé.
Ah bon, moi je pensais que c'était presque...
Non, mais ça c'est dans la théocratie tibéto-tibétaine, oui. D'accord. Et le Dalai est assez honnête pour savoir ce que veut dire être éveillé. C'est pour ça qu'il faut faire des nuances. Moi je ne me prétends pas éveillé non plus. Mais je peux aussi prétendre quelques expériences de vacuité, etc., etc., tu vois. Quand dans la bouche d'un Dalai Lama, quand il dit éveil, il parle de l'expérience que Sakyamuni a eue. Donc c'est clair. Il ne fait pas de la modestie. C'est pour ça que je dis attention. Voyez-le comme un très bon enseignant. Vous voyez, un homme plein d'inspiration. Il est inspirant.
Moi, je le voyais plus. Je voyais ça plus. Qu'il dise ça par compassion pour nous. Pour qu'on ne se mette pas à chialer en se disant...
Ah non, un éveillé qui ferait ça ne serait pas un éveillé. Ça veut dire qu'il comprend pas ce que c'est que l'éveil. C'est pas une promotion. Là, tu peux très bien dire, par exemple, si tu n'as plus d'illusion sur l'argent, et tu vois quelqu'un qui s'illusionne sur l'argent, tu vas lui transmettre l'expérience que tu as eue de l'illusion. Tu vas pas dire, non, je suis modeste, je vais rien lui dire. Il va se planter le mec, tu vois. D'accord. Eh ben c'est pareil, quand tu es éveillé... Hein? Mais dans la bouche de Dharma ou dans ma bouche, moi, ou de n'importe qui, hein, d'enseignant bouddhique, on sait ce que veut dire éveil. C'est-à-dire Samyak Sambuddhaya. D'accord ? C'est-à-dire ce qu'a réalisé le Bouddha Sakyamuni et ce qu'on appelle les autres qui ont réalisé le même éveil, on les appelle le second Bouddha. Il n'y en a pas beaucoup, la liste. Nagarjuna, Milarepa, Gorimpoche, pour ceux que je connais. D'accord ? Point barre. Oui, il a réalisé le Trikaya, il a réalisé machin, etc., etc. Et l'exemple de Milarepa, c'est la force du Vajrana, la force de caractère qui l'a amené à être Vajra, et puis s'apitoyer sur son sort de petit pêcheur qui a tué machin, etc.
Grand pêcheur.
Hein?
Grand pêcheur.
Oui, voilà, mais c'est tellement mesquin, quoi. S'apitoyer. Hein? La rédemption de Milarepa, elle est fulgurante. D'accord ? Et des gens, on peut voir des miracles de rédemption certainement en prison. Le miracle de la rédemption pour les plus grands criminels, il y a une fulgurance et ça passait pas. Un chaloupa, t'es agenouillé, hein, mais t'es éveillé. Enfin, rédempté, quoi. Mais voilà, quand on dit « je ne suis pas éveillé » dans la bouche d'un bouddhiste, d'autant plus enseignant, on sait ce que veut dire. Moi, je ne le dirais pas. Quand on a demandé à Sito Impoche « est-ce que vous êtes éveillé ?» hein, on est un petit groupe, il dit non. Et en plus, il dit « vous comprenez, on m'a dit à 2 ans, je suis Maitreya, le Bouddha Maitreya. » Mais non, je ne suis pas le Bouddha Maitreya, je ne suis pas éveillé. D'accord ? Et les grands tibétains, les grands maîtres, tout coup, machin, ils savent très bien que cette histoire de tout coup incarné, etc., c'est simplement théocratique, ça a été politique, créé au 15e siècle.
C'est comme les Vatican maintenant, il y a tout le temps des choses qu'on choisit des personnes pour être leur représentant de Pierre, Saint-Pierre.
Oui, voilà. On pourrait dire le pape est le tout coup de Saint-Pierre, oui. Si vous voulez, si on avait ça. Hein. Il est l'expression, l'émanation, le tout le coup. On est tous tout le coup, Trikaya, donc on est tous tout le coup. Mais dans la bouche d'un Tibétain, tout le coup, c'est devenu l'incarnation d'un être éveillé, donc tu dois être éveillé. Et ce qui fait les grands troubles psychologiques pour des petits jeunes. Dakpo Rinpoche, il a dit à ses maîtres, mais je ne suis pas un tout le coup. Mais dans la bouche d'un Tibétain, tout le coup, ça a été déformé. Ce n'est pas Nirmana, pour eux, c'est l'incarnation. Mais c'est dur à assumer ça, parce que ce n'est pas le cas. Tout le coup, ça veut dire avatar, c'est une expression, une émanation. Alors que on dise que le Dharma est l'expression de la compassion, ça, je suis d'accord. Mais moi, je suis plus à le voir comme l'expression de la sagesse de Manjushri, c'est-à-dire la capacité d'érudition, une rhétorique claire. Il conçoit bien, il énonce bien. C'est ça, Manjushri. Et une exactitude. Voilà. Alors, c'est un guéché avant tout, hein, donc il a étudié. C'est comme les jésuites, hein. Ils étudient une rhétorique, c'est imparable, quoi. Là, on peut dire tout le coup, mais pas réincarnation. Ça, c'est le problème tibéto-tibétain. Et on le retrouve qu'au Tibet, c'est cet aspect de tout le coup réincarné et qui fait des dégâts psychologiques chez les enfants.
C'est du lavage de cerveau, hein.
C'est le lavage de cerveau, on les formate. Et certains, ils ne se sentent pas à leur place, ils ne se sentent pas conformes. Le jeune Kalon Poché, c'est la première chose qu'il a dit, je ne suis pas Kalon Poché. Il est pris au piège, ça c'est un peu comme il est victime de la mode, il est victime de la théocratie. Alors que ce jeune Kalon Poché, pour moi, c'est l'émanation de l'authenticité, de l'honnêteté.